Alors, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Prophète Joël, chapitre 2, à partir du verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Amen. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés, que l'Éternel apparaîtra. Le jour de la Pentecôte, Pierre a cité les versets 28 à 32 de notre lecture. Cette prophétie annoncée pratiquement 8 siècles avant Jésus-Christ s'est accomplie à la lettre. Pierre a pu affirmer devant le peuple, « Repentez-vous !» Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse, le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. La promesse est pour tous. Amen. Et on remarque quand même que l'apôtre a commencé à prêcher « Repentez-vous ». Vous savez que Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, les premiers mots qu'il a dit « Repentez-vous ». Quand Jésus a commencé son ministère, il a dit « Repentez-vous ». Et au commencement de l'Église encore « Repentez-vous ». Voyons combien ces choses ont de l'importance. Il y a deux grâces qui s'accordent, qui découlent réellement de la repentance, le pardon des péchés, et dans ce texte, le don du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Je crois que tous nous avons besoin de faire le plein d'huile de nos lampes, que nous soyons réellement des vierges sages et non des vierges folles. C'est important. Les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Elles sont oui et amen. Avec Dieu, le dire et le faire marche de pair. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ce n'est pas toujours le cas avec les êtres humains. Bon, je crois que vous en êtes aperçu par rapport aux autres, peut-être même par rapport à vous-même. C'est pas évident. Que de belles paroles. Que de serments, on pourrait dire solennels, là. Que de promesses non tenues. Aujourd'hui, vous avez des chers frères et sœurs qui se laissent décourager. Les temps sont difficiles. Bah oui. D'autres se laissent séduire par le monde et sa manière de faire, sa mentalité. Ils oublient la promesse qu'ils ont faite au Seigneur dans les eaux du baptême, la promesse de fidélité. Alors, veillons, veillons les uns sur les autres dans ces temps difficiles. Prions les uns pour les autres dans ce temps difficile. Avant, on chantait ce chant, « Je prie pour toi ». Je ne sais pas si vous le chantez toujours. Hein? Je prie pour toi, tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours en une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Prions les uns pour les autres pour les uns. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors nous avons lu au verset 23, « Il vous donnera la pluie en son temps. » Et au verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec, le agile et le gazan. » Ces promesses, on pourrait dire qu'elles s'adressent d'abord au peuple d'Israël, c'est vrai, mais aussi à l'Église de Jésus-Christ. Et c'est même en Jésus-Christ qu'elles ont un plein accomplissement. J'espère que je ne parle pas trop fort. Ça va? Je ne vous casse pas trop les oreilles? Ça va? Bon, j'étais habitué à parler fort. Alors, c'est vrai que dans ce livre de Joël, le Seigneur appelle son peuple à revenir à lui. Il appelle son peuple à se repentir, à s'assembler depuis les vieillards, jusqu'aux plus jeunes, en passant par les sacrificateurs. Nous savons, bien sûr, la repentance du pécheur lui permet d'échapper à la colère divine. Dieu est prêt à pardonner, à bénir le peuple qui s'humilie. Dans sa grâce infinie, il use encore de patience envers tous. Il vous donnera la pluie en son temps. Pour 5 fois dans la parole de Dieu, dans la traduction seconde, cette expression-là, pluie en son temps. Or, dans ces temps troublés, je crois que nous avons besoin les uns et les autres d'une nouvelle visitation du Saint-Esprit. Vous le ressentez? Nous avons besoin les uns et les autres d'une nouvelle visitation de l'Esprit. Ézéchiel 34, 26, « J'enverrai la pluie en son temps, ce sera une pluie de bénédiction. » Seigneur, nous la désirons, cette pluie. Nous la désirons de tout notre cœur. C'est un vers en justification, comme l'a traduit Chouraki. Le Seigneur revient bientôt, nous voulons être prêts pour son retour. Nous voulons être prêts pour son retour. Alors la parole de Dieu nous révèle que la pluie a été donnée en quelque sorte à cause de l'homme. Ben oui. Tant que l'homme n'était pas présent, il n'y avait pas de pluie. Genèse 2:5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Voilà. Et la pluie de la bénédiction, la pluie divine, elle ne tombe qu'à cause du Fils de l'homme. Elle ne tombe qu'à cause de Jésus. C'est lui qui a les mérites, pas nous. Hein. C'est dans ses mérites que nous nous confions. Quand Jésus est venu, excusez-moi l'expression, il n'y avait pas d'homme. D'ailleurs, vous remarquez que Pilate, sans s'en rendre compte, hein, il a dit, voici l'homme. L'homme nouveau, l'homme accompli, l'homme parfait, l'homme fait tel que Dieu le voulait, il était là, devant Pilate. Voici l'homme. Et l'Épître aux Éphésiens, elle nous invite, elle nous exhorte à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, bien sûr, c'est une expression employée dans le sens général, hein, ça concerne aussi les femmes, hein, pas, ça ne concerne pas que les hommes, hein, vous avez bien compris, hein, bien sûr. Aujourd'hui, ça concerne tous ceux qui ont à cœur de revêtir l'homme nouveau. Dieu a fait la promesse. Dieu a fait la promesse, je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années. Tous ceux qui acceptent que Christ soit formé en eux, tous ceux qui acceptent de mourir à eux-mêmes pour que Christ soit formé en eux, eh bien, à tout cela, Seigneur, que leur promette, je vous remplacerai les années qu'on dévorait le gélec, le hasil et le gazon. Alors c'est un mot remplacer, remplacerait qu'on peut, c'est le mot hébreu shalom, on peut le remplacer par je compenserai, je vous restituerai, je vous dédommagerai. Il y a différentes traductions à ce sujet. Quelqu'un a dit d'ailleurs que les langues sont comme un filet jeté sur les choses. Une autre langue est un autre filet. Il est rare que les mailles coïncident. C'est ce qui explique, si vous voulez, bien sûr, les différentes traductions de la Bible. Je vous remplacerai les années. La fuite du temps, elle est irréversible, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai? Comment remplacer les années? L'être humain en est incapable. Seul Dieu peut dire je suis celui qui suis. Il est l'éternel présent. Il est le créateur. Il est le transcendant gardien de l'univers, transcendant parce que en dehors de toute connaissance et au-dessus, bien au-dessus de toute connaissance. Il est celui que nous ne pouvons connaître que par une révélation. Révélation de l'esprit, celui duquel nous pouvons approcher par Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, bien sûr. Il y a un frère qui le sait. Merci Seigneur. Voilà. Alors, il est celui, bien sûr, qui est au-dessus de toute chose. Et Paul peut dire aux Athéniens, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Nous avons tous la même origine, hein. Habite sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Hein? Paul a dit ça aux Athéniens dans Actes 17, 26. Mais c'est vrai que notre temps, il est limité sur cette terre, mais lui, notre Père, possède l'immortalité. Il habite une lumière qui a une dimension inaccessible, mais il était capable de nous apporter la rédemption par Jésus-Christ et de venir habiter sur cette terre en Jésus-Christ. La parole a été faite chair et l'amour a permis et permet à l'impossible de se réaliser parce que nous pouvions nous racheter nous-mêmes. Le Seigneur, dans son amour, nous a donné un sauveur merveilleux. La parole a été faite chair. Et vous savez, bien sûr, vous connaissez tellement ce beau passage, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, afin que Jonathan croit, afin que chacun de nous croit, hein, et qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec, le hasil, et le gazon. Alors, ce temps qui s'écoule inexorablement, quelqu'un a dit, si on pouvait arrêter les aiguilles au cadran des heures de la vie, si on pouvait arrêter les aiguilles au cadran des heures de la vie, mais on ne peut pas, on ne peut même pas revenir en arrière, c'est pas possible, hein. Certains disent, oh si j'avais 20 ans, ah, moi je les ai toujours, mais quelques années de plus, vous savez bien. Vous le voyez bien? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vous remplacerai les années. Remplacer, c'est mettre quelque chose d'autre à la place. Comment faire? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pour remplacer les années, il faudra un autre espace-temps, un temps différent, un temps meilleur. Cet espace, il existe. Il existe. Il a été annoncé par Jésus. C'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Le monde païen était étranger aux alliances. Il n'avait aucune connaissance du Dieu vivant et vrai. Il était sans espérance. Mais par la grâce qui est en Jésus-Christ, les païens convertis sont devenus gens de la maison de Dieu. Quelle grâce! Leurs années d'idolâtrie ont été remplacées. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour eux. Il est devenu leur Seigneur. Amen. Dans la synagogue de Nazareth, et vous savez, vous connaissez ce passage, Jésus a déroulé le livre du prophète Ésaïe. Et il a pu dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, devant la croix de Jésus, nous avons réalisé, bien sûr, je pense, les uns et les autres, tout l'amour de Dieu pour nous. Quand même, vous vous rendez compte? Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour me sauver. Le sang précieux de Christ a été versé pour laver mes péchés. Le Fils de Dieu, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Je crois que nous avons besoin d'être animés réellement d'une sainte crainte, d'une crainte respectueuse quand nous approchons du Seigneur. Il est si grand. Il est si grand. Il est si merveilleux. Mais, devant la croix, est-ce que nous avons bien réalisé la dimension de la justice de Dieu? Il n'y avait pas d'autre moyen, vous rendez compte, pour nous sauver? Il n'y avait pas d'autre moyen? Et il n'y a aucune faiblesse en Dieu. Il n'y a aucun passe-droit. Le péché, c'est le péché. C'est ce qui nous sépare, bien sûr, de lui, c'est ce qui nous sépare. Alors, en dehors du Sauveur, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir pour l'humain. Celui qui recèle Jésus, il se retrouve devant cette parole d'Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ça la justice de Dieu. Elle n'a pas de droit, hein. C'est pas possible. Dieu ne peut pas passer sans qu'il y ait eu le sang versé, sans qu'il y ait le don, qu'il y ait eu le don de Jésus-Christ. Par contre, bien sûr, c'est vrai, nous savons qu'il est écrit dans Ézéchiel 33:11, « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. » Ah, c'est vrai que le peuple de Dieu est souvent tombé dans l'idolâtrie. Hein. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, l'abandon, la parole de son Seigneur, on est quelquefois étonné devant les étranges permissions de Dieu. On est étonné, parce qu'il ne se passe rien sans que Dieu le permette quand même. C'est lui qui est sur son trône, hein. Il était sur son trône lors du déluge, il a été sur son trône lors de Sodome et Gomorre, etc., etc. Hein? Bien sûr, bien sûr. Alors, nous voyons dans les Écritures que pour ramener son peuple à lui, par exemple, dans ce que nous avons lu dans le livre du prophète Joël, qu'il a envoyé les sauterelles, Shélek, Asile, Gazan, et il l'appelle sa grande armée, que j'avais envoyée contre vous, il dit. Alors, il dit, Dieu d'amour, comment? Seigneur, t'es amour, puis t'as fait ça. Ben oui, mais on oublie les perfections divines. Dieu est parfait en tout. Dans son amour, il est parfait, il donne un sauveur, et dans sa justice, hein? Attention, attention. Moi j'ai quelquefois entendu, on me dit, oh Dieu vous aime, il vous aime comme vous êtes. Oh gloire à Dieu, je suis arrivé, של חולץ, אוף, היה שמי, שוב הוא נשמע טוב בביה. לביינו, פרובלם זה כלסניור אמרה, כמו נרשתם פעם על איתו ונושם. Il a de grandes ambitions pour chacun de nous, et beaucoup plus que nous d'ambition, je crois. Et je crois que nous avons besoin, nous, d'avoir de l'ambition. Hein, il faut que nous progressions sur ce chemin du renoncement à nous-mêmes. Il faut que Jésus-Christ soit formé en nous. C'est très important. Que le Seigneur nous aide. Alors, on remarque, c'est dans Ésaïe 27:4. Dieu dit, il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Ah, je ne sais pas si dans votre vie il y a des ronces et des épines. Hein? Je crois que nous avons besoin de nous remettre devant le Seigneur, de demander sa grâce. Hein, il nous aime, il veut notre bonheur. Non seulement présent, mais notre bonheur éternel. Du temps des juges, et après, on voit qu'il est écrit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Et nous voyons qu'il fallait quelquefois des années et des années de misère, de galère, de souffrance pour en arriver là. Combien le cœur humain est dur et lent à comprendre. Qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il de nous-mêmes? Nous avons besoin réellement d'avoir une attitude d'humilité devant le Seigneur. Nous avons besoin de lui demander sa grâce. Nous avons besoin de comprendre son œuvre et la grâce qu'il veut nous accorder encore aujourd'hui. Alors, Sauterelle, Gélec, Asile, Gazan. Bon. J'ai regardé un petit peu parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que toutes ces bébêtes? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, les commentateurs, ils n'émettent souvent que des hypothèses, que des suppositions. Alors, on pourrait, c'est vrai, méditer là-dessus, mais on ne va pas y entrer. Est-ce que c'est plusieurs sortes de sauterelles? Est-ce que c'est différentes sortes larvaires de la sauterelle? Il y a plein de suppositions. Alors, je sais qu'une invasion de sauterelles, alors je ne sais pas si vous connaissez mieux que moi ce genre de choses, mais il paraît que c'est une grande armée qui avance en ordre de marche. Ça peut faire jusqu'à 16 km de long et 8 km de large. Et partout où ça passe, ça m'en saute. Là, je ne peux rien. Il ne reste plus rien. Tout est bouloté. C'est vraiment l'image de l'épreuve, vous ne trouvez pas. Quand elle s'abat sur nous, qui n'a pas connu des moments un peu semblables, des moments où on a l'impression qu'il ne reste plus rien, que tout est vide, que tout est raté, tout est gâché. Le vide, la désolation. Pour certains même, quelquefois, malheureusement, c'est un espace vide qui ne peut être remplacé, mais un temps difficile, souvent on se pose toutes sortes de questions. Il n'y en a qu'un, et vous le savez, bien sûr, qui peut combler ce vide dans l'épreuve, c'est le Seigneur Jésus lui-même. L'amour du Seigneur est capable de remplacer le temps des larmes, le temps de l'indifférence, le temps de l'injustice, le temps de l'abandon. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait le Gélec, le Asile et le Gazan. Le Sauterelle aussi. Bon, pour les oublier. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Cette promesse, elle est aussi pour nous. À Jérémie, nous voyons que Dieu annonce l'invasion des Babyloniens. Et il lui dit, que vois-tu? Jérémie, il dit, c'est Jérémie 11. Hein. Il dit, je vois une branche d'amandier. On sait que l'amandier est appelé en hébreu l'arbre qui veille. Hein, c'est le sens du mot qui a été traduit par amandier. Parce qu'il commence à fleurir au mois de janvier, là où toute la nature est encore en sommeil. Il est un symbole frappant, on pourrait dire, de la vigilance divine, qui est toujours active. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Puis Jérémie, il va voir une chaudière bouillante. Voilà. Il voit l'épreuve qui va fondre sur le peuple d'Israël. La chaudière qui boue, alors il paraît que c'est encore aujourd'hui, chez certains peuples, une métaphore, c'est-à-dire une image proverbiale qui indique qu'il y a une menace de guerre. Cette chaudière, c'était le fléau, c'était pour Israël le début de la diaspora. Le déferlement des armées, des Babyloniens, des Assyriens, des Romains, des Turcs, etc., des Arabes. Puis enfin la Shoah, par les nazis. Pendant 20 siècles, les Juifs ont dit « l'année prochaine à Jérusalem ». Pendant 20 siècles, vous vous rendez compte? Oui, mais oui. Il y eut un espace vide, en quelque sorte, pour eux, de 20 siècles. Terrible. Mais la promesse de Dieu s'est accomplie en son temps. Il y a eu le retour au pays, un pari impossible, gagné par des Juifs qui avaient la foi dans les promesses de Dieu, qui ont cru à la parole. Prions pour Israël. Les temps vont devenir certainement de plus en plus difficiles pour eux. Prions pour le peuple d'Israël. Je vous compenserai les années. Il y a une pensée d'équilibrage, de rééquilibrage, la pensée d'une balance juste. Dieu, tôt ou tard, compense les souffrances de ses enfants. Une autre, d'autres versions qui dit « Je vous revaudrai les années ». Il veut nous rendre l'appareil, mais en bien, en bonheur. Il y a une pensée d'égalité aussi dans ce qui est rendu. Je vous paierai les années. Une pensée de salaire. Alors quand on regarde ce qu'Israël a connu, on voit que Dieu a veillé sur sa parole pour l'exécuter, mais en son temps. Il a pu dire par Jérémie au chapitre 31, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Et voilà une promesse, vous savez, que des frères et sœurs ont saisi pour leurs enfants. Oui, ils l'ont saisi par la foi, tant il est vrai que le territoire de leurs enfants, c'était Christ lui-même. Amen. Eh oui, eh oui. Nous sommes appelés à vivre avec l'objectif d'une dimension qui dépasse maintenant. Avec la vision du remplacement, de la compensation, la vision du rendu, du salaire. Je vous compenserai, les amis. Amen. Alors, je peux encore parler un peu, ça va? Pas trop long? Non, vous voyez, personne qui dit rien, on est peut-être marre. Non, ça va aller. Bon, c'est vrai qu'on on a beaucoup parlé, bien sûr, des malheurs de Job, mais il y a aussi son bonheur. Hein. Oui. Ce pauvre Job, hein, c'est vrai qu'il avait tout perdu, absolument tout, sauf sa femme. Bien sûr, cette pauvre femme, il ne restait plus rien, plus d'enfants, plus rien. Sauf un mari malade qui allait mourir. Mais il y a aussi son bonheur. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Merci Seigneur. Pour Joseph, on sait bien que le chemin du trône est passé par l'abandon, la trahison, la séparation, la calomnie, la prison, et toutes sortes de choses, de misère. Mais Dieu l'en a fait sortir pour le mettre à la tête de l'Égypte. Amen. Naomi, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Hein, vous pourrez lire bien sûr le livre de Ruth, juste après le livre de Samuel. Naomi, qui avait quitté Bethléem, la maison du pain, pourtant ça s'appelle Bethléem, à cause d'une famine, hein, elle est revenue, bien sûr, après, mais elle est revenue à vide. Elle n'avait plus rien, enfin, il ne restait plus qu'une belle fille qui l'a suivie, Ruth, bien sûr. Mais il est écrit quand même que les femmes ont dit à Naomi, cet enfant, l'enfant que Ruth a eu, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle vaut mieux pour toi que cette fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Naomi a été pleinement consolée. Je vous compenserai les années. On dévorait la sauterelle, le asile et le gazon. Et puis, on peut penser aussi aux années d'amertume d'Anne, la mère de Samuel, hein, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elles ont été compensées par la naissance de Samuel. Et elle l'a donné à l'Éternel. Elle l'a offert à l'Éternel. Elle a été comblée par la naissance de 3 fils et 2 filles. Le Seigneur l'a consolée, l'a bénie. Mais en son temps. Alors on va peut-être pas loin de conclure quand même. Hébreux 11 nous dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la récompense. La récompense de Moïse, c'était pas la Canaan terrestre. Il n'y est pas entré. Eh bien non. Mais comme les patriarches, il attendait la cité qui a de solides fondements. Alors pour nous, nous savons le salut, c'est le cadeau de Dieu, bien sûr. Mais là-haut nous attend une récompense, si nous sommes fidèles. Si nous sommes fidèles, bien sûr, et en fonction de notre fidélité, nous aurons une récompense. Veillons à ne pas perdre cette récompense, à rester fidèles au Seigneur et à sa parole. Alors dans ces temps troublés, combien il est bon aujourd'hui de, je sais pas, fermer la télé, fermer les radios, fermer tout, puis nous mettre à l'écoute de notre Seigneur, de lever les yeux vers le Seigneur. Combien c'est bon. Combien c'est bon aujourd'hui. Je crois que toutes ces choses, là, aujourd'hui, il y a des gens, malheureusement, qui restent presque toute la journée devant leur télévision à regarder les chaînes d'information. Quand ils arrivent le soir, ils sont complètement découragés, hein, même avant. Faisons taire les bruits de la terre en ces temps. Levons nos yeux vers le Seigneur. Il y a un ancien cantique, des chœurs et cantiques. Je vous livre les paroles de la première strophe. Moi, il parle à mon cœur. Bon. Chaque jour, à chaque instant qui passe, Père Saint, tu es mon seul soutien. Dans les heures sombres, dans l'angoisse, guide-moi par tes conseils divins. Tendrement tu m'aimes, mon Père. Tendrement tu m'aimes, mon Père. Tu m'entoures de tes puissants bras. Dans la rude épreuve, en toi j'espère, tu me rends vainqueur dans le combat. Amen. Amen. Combien, je sais pas, moi j'aime bien ce chant, il me revient souvent sur mon cœur, il me fait du bien. Hein? Quand je le chante, tu m'entoures de tes puissants bras. Amen. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes, pour l'encouragement. Nous avons besoin en effet de repasser les paroles du Seigneur dans notre cœur, de repasser aussi tous ces chants qui nous exhortent, qui nous encouragent, qui nous consolent. Amen.
Amen.
Alors, bien sûr, nous avons sur cette terre, connaissons des souffrances. Puis nous connaissons aussi les souffrances des autres. Les souffrances des autres ne doivent pas produire en nous un jugement, mais bien au contraire, doivent nous amener à plus de bonté, nous amener à développer en nous des entrailles de miséricorde à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous ressemblions davantage à Jésus chaque jours de notre vie. Amen. Ça, ça sera un bon programme. Quelquefois, on se dit, j'ai pas fait de progrès, j'ai l'impression de piétiner un petit peu. Alors, je crois qu'il faut lever nos yeux et mettre toute notre foi en Jésus-Christ. Vous savez, l'époux de l'Église, Jésus, revient selon sa promesse. Ses promesses sont oui et amen. Répète, hein. 1 Thessaloniciens 4,16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, nous serons enlevés. Amen. Ça, ça va bientôt arriver. Il y a des frères et sœurs qui ont eu cette révélation d'une manière ou d'une autre. La trompette est à la bouche. La trompette est à la bouche. On ne va pas détailler plus aujourd'hui, mais soyons prêts. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La promesse est certaine.